Jacques m'attendait à la présentation.
La une de l'actualité de ce jeudi 21 septembre 2006, Kabila devant l'Assemblée des Nations Unies hier, mercredi à New York, la consolidation de la paix et les processus électoraux étaient au centre du discours présenté par le président de la République démocratique du Congo. Vous allez entendre un extrait dans ce journal depuis New York. Le MLC s'insurge contre le délai de 15 jours accordé par la CEI pour la campagne du second tour de l'élection présidentielle. Vous suivrez également la réaction de la commission électorale indépendante à ce sujet. Retour de près de 10 000 déplacés de Kababa en Ituri. Ils avaient fui les accrochages entre FRDC et miliciens du mouvement des révolutionnaires congolais en mai dernier. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Poursuite du débat à l'Assemblée générale de la 61e session de l'ONU, la consolidation de la paix était au centre du discours présenté mercredi par les présidents de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a lancé un appel à la communauté internationale de poursuivre le partenariat avec la RDC après la mise en place des nouvelles institutions. Joseph Kabila a demandé, il a donné aussi ses assurances sur la poursuite du processus électoral dans un climat apaisé. Et on l'écoute.
S'agissant des événements malheureux survenus à Kinshasa du 20 au 22 août 2006, après la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle par la Commission électorale indépendante, toutes les dispositions ont été prises pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. Le processus électoral va se poursuivre dans un climat apaisé et de concorde nationale. Cependant, il demeure de nombreux problèmes multisectoriels auxquels le prochain gouvernement devra faire face au regard des attentes urgentes et légitimes du peuple congolais. En effet, ce gouvernement devra parachever l'œuvre de l'intégration et de la réforme de l'armée pour assurer la paix et la sécurité à notre peuple. Il devra se mettre au travail pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour y arriver, le nouveau gouvernement devra, entre autres, renforcer la bonne gouvernance.
Les propos de Joseph Kabila recueillis depuis New York par Walter Mulondi. Peu avant de quitter New York, Joseph Kabila a conféré avec la secrétaire d'État américaine. Condoleezza Rice a souhaité que le second tour des présidentielles se déroule dans la sécurité et la paix. Mardi, Joseph Kabila avait discuté du même sujet avec Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, et Jacques Chirac, président de la France. Au lendemain de l'annonce par la Commission électorale indépendante du calendrier des élections provinciales et du second tour de la présidentielle, le MLC, Mouvement des Libérations du Congo, désapprouve le délai de 15 jours accordé à la campagne présidentielle. Le parti de Jean-Pierre Bemba estime que ce délai est insuffisant et ne respecte pas les prescrits de la Constitution. Délice Essanga, membre du bureau politique du MLC, est au micro de Innocent Oleg.
Ce délai nous paraît manifestement insuffisant au regard de l'étendue du pays. On ne peut pas faire une campagne sur l'étendue de la République qui constitue la circonscription d'élection du président de la République en 15 jours. Nous pensons, en tant que mouvement et à une vocation nationale, que ce délai est manifestement insuffisant et il pourrait même compromettre, si vous voulez, la transparence et la crédibilité du processus dès lors que les candidats n'auront pas le temps de pouvoir s'exprimer correctement.
Concrètement, qu'est-ce qui peut être très difficile pour vous dans 15 jours?
Écoutez, il faut circuler le pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure et ça se fait par la voie aérienne. Vous avez 11 provinces, vous avez 26 districts. C'est quand même ça le pays réel. Et si nous voulons réellement parvenir à organiser des élections où le débat a lieu, où les candidats peuvent s'expliquer sur leur projet devant la population, pourquoi on n'a pas fixé à un mois comme c'est la latitude offerte par la Constitution et la Cour suprême dans son arrêt n'a pas eu à fixer d'autorité ce délai.
Pour rappel, le PPRD a déclaré hier à Radio Okapi que le délai de 15 jours de campagne fixé par la Commission électorale indépendante pour le deuxième tour de la présidentielle vient compléter les travaux abattus lors du premier tour. Pour ce parti, il n'est pas question de contredire ce qui est prévu par la loi électorale et la Constitution. D'après la CEI, les 15 jours de campagne ne sont pas arbitraires. Ils sont normalement prévus par l'article 71 de la loi électorale qui stipule que le deuxième tour devrait être organisé 15 jours après la publication des résultats définitifs. Les 50 jours de plus accordés par la Cour suprême de justice pour la solution des problèmes techniques ne dérogent pas sur l'esprit de la loi. On écoute Dieudonné Mirimo, premier rapporteur de la CEI. Il est joint par Claude Bousset.
Je voudrais rappeler à l'opinion que la Commission électorale indépendante avait introduit une requête à la Cour suprême de justice pour indiquer que pour les cas de force majeure, elle n'était pas en mesure d'organiser le deuxième tour des présidentielles 15 jours après la publication des résultats définitifs par la Cour suprême de justice conformément à l'article 71. Et la Cour suprême nous a accordé un délai de 50 jours pour des contraintes logistiques. Mais le reste, on ne peut pas changer. Parce qu'on pouvait le faire dans les 15 jours, et la campagne normalement durerait les 15 jours sans problème. Mais c'est le déploiement qui fait qu'on ne sait pas le faire dans 15 jours, mais la campagne ne change pas. Vous voyez qu'on n'a pas changé la campagne des provinciales parce que dans la loi, c'est fixé à 30 jours. Ils savent ce qu'ils doivent faire.
Et nous vous disions en titre que dans la province du Katanga, les honorables députés avaient été reçus par le gouverneur, avaient été reçus au gouvernorat de cette province. Et on va écouter quelques-uns de leurs propos à l'issue de cette rencontre.
Et c'est moi qui ai soulevé cette question parce que j'ai eu l'occasion de suivre les communiqués du secrétariat général du Parlement qui nous invitait pour les 22 à 10 heures. J'ai suivi aussi l'instruction du ministère de l'Intérieur qui demandait au gouverneur de prendre toutes les dispositions pour que les honorables députés soient à Kinshasa. Alors nous avons rappelé au gouverneur que nous étions la province du Katanga et qu'à ce titre nous devions faire la différence. En dépit des difficultés, il fallait absolument trouver des solutions pour que nous ne puissions pas rater cette séance importante. C'est la séance de validation.
Contacté, le vice-gouverneur en charge de l'économie et finances, Juscelin Chiquez Diemou, reconnaît avoir reçu la sollicitation des députés. Il se dit optimiste et croit qu'une solution sera trouvée. On l'écoute.
Du point de vue du budget, il n'a pas été prévu de fonds pour les déplacements des députés, mais il est aussi prévu beaucoup d'autres rubriques. Et il me semble que c'est un ordre. J'ai suivi moi-même le ministre de l'Intérieur. Nous avons certes des difficultés, mais nous ne pensons pas qu'au regard de l'enjeu que constitue la première session de l'Assemblée nationale, que nous tergiversions. Il y va de l'avenir du pays. Nous pouvons avoir des difficultés, mais il faut trouver des solutions.
Revenons à Kinshasa avec l'annonce par le gouvernement de l'ouverture d'une enquête sur l'incendie des trois chaînes de télévision CCTV, CKTV et Radio Liberté. L'objet de cette enquête mixte, ouverte depuis mardi dernier par la police nationale congolaise et la MONUC, est d'établir les causes de l'incendie qui s'est déclaré lundi dernier dans l'immeuble qui abrite les médias appartenant au vice-président Jean-Pierre Bemba. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé hier à Radio Capi. Théophile Bemba, on va l'écouter, il est joint par
La police nationale congolaise, par ses services et les experts de la MONUC, ils sont déjà descendus sur le terrain, ils ont pris les premiers éléments. Mais il me semble aussi que le parquet général doit avoir signé un mandat à des inspecteurs judiciaires, une réquisition d'informations aux inspecteurs judiciaires qui sont descendus sur le terrain et s'inquiéter de la situation. Je dis bien une enquête mixte de services de l'État appuyée par la MONUC. Certainement que ceux qui gèrent la chaîne CCTV, disons que l'immeuble et les services qui y sont seront certainement touchés par les enquêteurs. Vous savez, il s'agit d'une affaire d'experts, hein, et c'est la police scientifique qui fait ce travail. Donc, ils seront interrogés certainement et apporter leur contribution. Mais ce que nous voulons, c'est que, effectivement, le résultat soit des résultats crédibles et rassure tout le monde sur l'origine de cet incendie. Ça ne prendra pas beaucoup de temps.
La MONUC confirme son implication dans cette enquête. La mission onusienne au Congo demande par ailleurs à la population de garder son calme en attendant les résultats de l'enquête sur les causes de cet incendie. Jean Tobioka, la porte-parole adjointe de la MONUC, l'a dit hier au cours de la conférence hebdomadaire. Ses propos ont été recueillis par Kelly Nkouté.
La MONUC regrette l'incendie qui a détruit les installations des chaînes de télévision CCTV et CKTV le lundi 18 septembre 2006 à Kinshasa. Nous invitons la population à garder son calme et à ne pas céder à la violence. Les autorités policières ont ouvert une enquête. La MONUC y participe. À l'heure qu'il est, il est prématuré. Il est impossible de dire quoi que ce soit au sujet de cette enquête. Mais d'ici là, que les uns et les autres se gardent d'attitude ou des déclarations qui pourraient nuire à cette enquête et créer des troubles dans la ville. Les Congolais ont déjà fait leur choix, celui de la paix.
Autre réaction, c'est celle de Reporters sans frontières dans un communiqué publié hier mercredi par l'AFP. L'ONG internationale demande aussi qu'une enquête sérieuse et transparente soit menée sur l'incendie survenu dans les locaux de CCTV Canal Kiné Ralik. Pour cette ONG de défense des journalistes, la population congolaise a le droit de connaître la vérité. Un autre incendie important s'est déclaré hier mercredi à Kinshasa, précisément à Kingabwa, un quartier de la commune de Limété. Un dépôt des carburants situé dans l'enceinte du programme national d'assainissement avait pris feu. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Direction province orientale avec le retour massif de la population de Kagaba, localité située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Bounia. Les autorités coutumières locales estiment qu'environ 10 000 personnes sont déjà retournées à Kagaba au cours des deux semaines dernières. Ces personnes ont quitté leur village au mois de mai dernier après les affrontements qui ont opposé les miliciens du mouvement des révolutionnaires congolais MRC et les FRDC. Information confirmée par certaines agences humanitaires internationales basées en Ituri de Bounia, Jean-Claude Bissiliabo.
Contacté au téléphone, un groupe de personnes déplacées lit leur mouvement retour au déploiement des soldats FRDC et des casques bleus du contingent bangladais de la Monique qui, selon eux, a rétabli un climat de sécurité. Pour le chef coutumier de Kagaba, Richard Avenyuma, la participation au second tour des élections et la rentrée scolaire constituent aussi les raisons principales de ces retours. Il nous cite les endroits où les retournés de Kagaba ont pris refuge après avoir déserté leur village au mois de mai.
C'est à cause des élections et pour que les enfants puissent étudier. Certains sont venus de Bounia, d'autres de Guéti, d'autres encore de la localité de Medou et de Cantonier, même de Sona.
Signalons qu'à Kagaba, la Fédération mondiale luthérienne, une organisation humanitaire protestante, a distribué au début de ce mois de septembre 70 tonnes de vivres à 1 700 ménages. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, les opérateurs économiques de cette province exigent l'accès aux installations de la SNCC à Ilebo afin de retirer leurs marchandises. C'est ce qui ressort de la rencontre mardi dernier entre les responsables de la Fédération des entreprises du Congo et les autorités du territoire d'Ilebo. Selon les commerçants, la SNCC en grève n'est pas prête pour payer le manque à gagner. Willy Kalombo.
Plusieurs bateaux transportant un total de 14 000 tonnes de marchandises sont amarrés au port d'Ilebo depuis 4 mois. Dans cette cargaison se trouvent des denrées périssables. Pour le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Figrand Sigle, la grève des agents de la SNCC ne justifie en rien que la dite société des transports interdise aux commerçants de retirer leurs marchandises. À ce propos, 5 commerçants ont été arrêtés par la police mercredi dernier pour avoir incité leurs collègues à observer une journée ville morte si l'autorité n'arrivait pas à trouver une solution à leurs problèmes. Le syndicat des agents de la SNCC reste catégorique. Pas de reprise de travail ni des services minimums sans apurement des 23 mois d'arriéré de salaire. Cette fermeté survient après que ces agents aient refusé de percevoir 2 mois des salaires disponibilisés par la société. De son côté, l'administrateur du territoire invite les opérateurs économiques au dialogue avec le syndicat en attendant que le gouvernement central trouve une solution à la situation de la SNCC. Entre-temps, sur les marchés, les prix continuent de grimper à cause de la rareté des produits. Le responsable de la FEC, Ilebo, réclame la libération de leurs membres et se demande si les marchandises contenues dans les wagons vont conserver leur qualité. Kananga, Willy Kalombo, Radio Okapi.
L'actualité internationale, l'Union africaine a annoncé hier mercredi que le mandat de sa force au Darfour serait prorogé jusqu'à la fin de l'année, garantissant ainsi une présence internationale dans cette région de l'ouest du Soudan, théâtre d'une grave crise humanitaire. Son mandat actuel devait s'achever le 30 septembre et Khartoum refuse que les Nations Unies prennent le relais sur terrain. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a acquitté mercredi l'ancien ministre rwandais de l'éducation, André Rwamakuba, accusé de génocide, complicité de génocide et crimes contre l'humanité, jugeant insuffisantes les preuves d'une implication dans les génocides rwandais de 1994. Le juge Charles Michael Byron a estimé qu'il manquait des preuves pour étayer les accusations, selon lesquelles André Rwamakuba, aujourd'hui âgé de 56 ans, avait distribué des machettes et participé à des campagnes anti-Tutsi lors des 100 jours du génocide. Plus d'un million de personnes Tutsi et Hutu modérées furent massacrées au Rwanda au printemps de 1994. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Il a été mis en onde par Paulin Mouinkiou. Excellente condition d'écoute sur Radio Okapi.